l'édition française de Radio Vatican.
À Prague, pour Radio Vatican, Guillaume Nard.
Berlin, Delphine Darbelier.
Pierre Benazet, Bruxelles, pour Radio Vatican.
Moscou, Jean-Didier Revoin.
New York, Loïc Louré, Radio Vatican.
Sur Radio Présence, trois rendez-vous avec Radio Vatican à 8h30, 13h et 18h.
Présence sur le COS 106.5.
Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Salis-du-Salat, 94.1.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être fidèles à Radio Présence, c'est l'heure du Présence Midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h, heureux de passer ce moment avec vous en direct des studios de Lourdes. Dans quelques instants, nous allons parler de l'association Être, une association qui se trouve à Ibos, à côté de Tarbes, et qui aide à la réinsertion des jeunes sans travail. Ce sera le sujet de la chronique verte de Benoît Guillard. Nous parlerons combat spirituel. Ce sera le titre d'un ouvrage qui nous sera présenté par Nicolas Dargegen dans sa chronique littéraire. Nous partirons sur les hauteurs de Lourdes, plus exactement à la cité Saint-Pierre, la cité du secours catholique à Lourdes. Ce sera avec Anne Deloy pour sa chronique solidaire. Et puis enfin, Philippe Labro sera à l'honneur des écrits sur l'Occitanie en compagnie de Catherine Albrecht. Voilà le programme de cette heure que nous allons passer ensemble. Je vous propose de débuter immédiatement avec les titres des informations de ce jour.
À l'Union, près de Toulouse, le maire Marc Perret s'insurge contre les propos alarmistes du chef d'état-major Fabien Mandon, qui a évoqué un possible conflit avec la Russie et appelé les élus à préparer la population. À Toulouse, François Briançon dévoile son projet santé pour les municipales 2026 avec l'objectif phare de créer un troisième grand hôpital au nord de la ville. À Cahors, dans le Lot, une trentaine d'assistants familiaux ont manifesté hier pour réclamer de meilleures conditions de travail, dont la hausse de l'allocation de vêtures et la fin du plafonnement des indemnités. À Toulouse, toujours, les échafaudages du Capitole sont tombés hier après 6 ans de travaux et près de 4 millions d'euros investis. Albi, dans le Tarn, le salon des antiquaires fête ses 50 ans au Parc des Expos avec la présence annoncée de Caroline Margeridon et un louis d'or à gagner chaque jour. À Castelsarrasin, enfin, dans le Tarn, la Maison d'Espagne expose jusqu'au 29 décembre les récentes œuvres de l'artiste abstrait Raymond Dirles, formé aux Beaux-Arts de Toulouse.
Retour de l'information aux alentours de 12h30 avec le journal complet de la mi-journée. En attendant, voici, comme tous les vendredis, la chronique verte de Benoît Guillard.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Cette semaine, j'ai fait le choix d'aller à Ibos, à la rencontre d'une association qui s'appelle l'association L'Être, et avec donc les animateurs, coordinateurs qui sont à l'origine de cette idée, l'idée étant d'accompagner des jeunes, moins jeunes d'ailleurs, hein, en situation de recherche d'emploi et en difficulté, et en utilisant la valeur qu'est la transition écologique et tous les travaux qu'elle propose finalement pour le futur. Donc, je vais vous présenter ces deux personnes, ou plutôt elles vont se présenter.
Bonjour, alors donc moi je suis Nicolas Flavini. Je suis à présent le coprésident de l'association EcoHabilis, donc une association centre de formation qui porte le projet d'école Être. Être pour école de la transition écologique. Et donc on est basé ici à Ibos, sur le tiers-lieu du lien Pyrénées.
Alors, on va continuer à faire circuler le micro. Bonjour.
Bonjour. Je suis Flore Colombon, coordinatrice du projet donc de l'école Être des Hautes-Pyrénées, donc salariée de l'association EcoHabilis depuis octobre 2023, avec le démarrage donc du projet associatif école Être courant septembre 2023.
Alors, cette école Être, de quoi y retourne? Qu'est-ce qu'on y fait? Qui contribue? Qui participe? Qui fait quoi?
Alors l'idée, c'est de former des jeunes qui sont pas ou peu diplômés, des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, de les former à des métiers manuels de la transition écologique. Et l'idée aussi, c'est, alors on a beau s'appeler école, c'est de les amener vers ces métiers, mais sans une approche scolaire, plus une approche de mise en pratique, donc sur des projets, des réalisations qui peuvent être autour du bois et de l'éco-construction. Ça peut être aussi du maraîchage, de la transformation de la laine. Et puis, on a choisi aussi d'élargir les thématiques avec les mobilités, donc réparation de vélos, entre autres. Et en fait, dès que ça a un lien avec un métier manuel qui a une place dans la transition écologique, ben on explore cette possibilité.
D'accord. Donc, ces métiers, ça peut donner lieu à une certification professionnelle, par exemple, pas systématiquement ou systématiquement?
Alors, en fait, l'idée, c'est de permettre aux jeunes qui sont en situation de fragilité dans la mesure où elles sont pas en emploi, elles sont pas en études, et en fait c'est de les amener à reprendre confiance sur une des thématiques dont on a parlé. Elles vont essayer plusieurs choses, sachant que le fil conducteur c'est quand même la thématique autour du bois, charpente, menuiserie avec du bois de réemploi. Et l'idée c'est que le jeune fur et à mesure de son cursus, donc on a deux types de cursus, 2 semaines ou 3 mois, ils prennent confiance et si possible, il ait une envie d'aller approfondir. Donc non, il ne sera pas ni certifié ni diplômé à la fin, il aura une attestation de formation. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est qu'il puisse aller vers une formation un peu plus longue et qu'en fait, il soit pré-équipé. Et qu'il ait confiance pour tenir sur une formation qui va durer peut-être 9 mois, peut-être 2 ans, et qu'il ait le plus de chances de succès possible.
Donc c'est une phase de rétablissement, comme on peut le voir, une phase où on retrouve un petit peu d'estime de soi et un peu de confiance pour repartir sur un chemin professionnel, c'est ça, hein?
Oui, pour compléter un petit peu ce que disait Nicolas, en fait, nous on travaille vraiment en partenariat avec les prescripteurs locaux. Donc on a en fait les jeunes arrivent jusqu'à nous via les missions locales ou la PJJ ou l'aide sociale à l'enfance. Et l'idée c'est que vraiment en fait il y a un accompagnement du début à la fin. Donc on fait en sorte on est un dispositif qui est avant la qualification. On vient jamais prendre la place en fait d'organismes ou de centres de formation qui existent déjà, qui ont des propositions au niveau qualification en fait sur le territoire, mais c'est ouvrir les possibles en fait aux jeunes ou à la jeune et lui montrer en fait qu'il y a des choses qui existent, qu'il y a des projets ultra chouettes en fait sur le territoire et que ça leur permette de rebondir, effectivement reprendre confiance en eux. Mais nous là dans ce qu'on va proposer, on est vraiment sur déjà explorer ses compétences individuelles, reprendre confiance dans le rapport à l'autre aussi, dans le fait de venir tous les jours, d'arriver à l'heure. Et en fait, c'est parfois déjà juste un frein énorme pour certains ou certaines jeunes. Et du coup, c'est le levier qu'on essaie de travailler le plus possible.
D'accord. Donc aujourd'hui, on est au lien. Donc sans doute qu'il n'y a pas de hasard. Si on est sur le tiers-lieu du lien, on avait fait une petite émission à Radio Présence sur le lien et tout le travail qu'ils produisent autour de la transition écologique. Combien de jeunes aujourd'hui sont accueillis?
Nous, on a un maximum de 8 jeunes par formation. Dans tous les cas, on va aller jamais au-dessus. On sait en fait que c'est un moyen en fait d'avoir un accompagnement socio-professionnel dans le cadre des formations de qualité. On va pas non plus aller sur des élèves, enfin 12 élèves par exemple, ça serait trop d'un point de vue très technique. En fait, par rapport aux machines, l'encadrement, il faut avoir plusieurs yeux, plusieurs bras, et du coup c'est aussi important d'avoir voilà, cette jauge minimum à maximum à 8. Et on sait aussi qu'en fait on est avec des publics qui ont, comme je le disais, des freins à lever, et du coup ça passe aussi par beaucoup d'absentéisme, et du coup on va aller parfois de 6 à 8 jeunes sur les formations.
Bon, plusieurs métiers sont entrepris, donc du coup on l'a entendu, hein, le bois, le maraîchage, etc. Donc ça veut dire que vous avez des équipements sur place, vous avez des ateliers.
Oui, on est donc au tiers lieu Le Lien à Ibos depuis septembre 2023. Et dans ce cadre-là, on a une location en fait dans le local où là, on a la totalité des ateliers bois éco-construction qui se réalisent. Par contre, pour tout ce qui est maraîchage biologique ou autre activité, on est soit à l'extérieur chez des maraîchères en majorité, on travaille avec des femmes, plutôt sur le secteur des baronnies ou ailleurs. On a un jardin test au Lien quand même, on expérimente en lien avec les équipes du tiers-lieu. Et en fait, ça fonctionne sur une semaine, on est 4 jours en école avec les jeunes, 2 jours au local où on fait de l'éco-construction ou de la laine avec une intervenante salariée, et 2 jours en extérieur, visite de professionnels ou avec des associations. Sur cette formation-là actuellement, par exemple, on a des journées où on va aller à la Hunte dans les baronnies pour aller vraiment explorer toutes les thématiques de biodiversité, recréer aussi des espaces verts autour du camp de la Hunte, etc. Donc voilà, c'est...
Alors peut-être on va parler un petit peu du modèle économique. Bon, pour accueillir ces jeunes, est-ce qu'eux-mêmes doivent financer leur formation? Il y a des aides de l'État ou des aides de la région peut-être pour la formation? Comment ça fonctionne, voilà, le modèle économique de votre association?
Alors, donc pour le jeune, les formations sont 100% gratuites. Voire pour certains jeunes, on peut mettre en place des aides à la mobilité pour rendre possible cette formation. Et ensuite, le fait d'avoir reçu le label Être, en fait, les écoles Être, c'est un réseau d'écoles qui sont maintenant un peu partout en France et qui, en Occitanie, bénéficient d'une convention de financement. Donc, on est financé en partie par la région Occitanie, en partie par les fonds de solidarité européens. En fait, c'est la région qui fait appel à l'Europe pour arriver à un financement de l'ordre de 70% de notre école. Donc, on doit trouver d'autres leviers de financement. Donc, il y a plusieurs axes de travail. Il y a des appels à projets. Ça peut être des appels de fondations, des fondations d'entreprises. Donc on met au travail ces différentes possibilités, et enfin il peut y avoir de l'autofinancement au travers de réalisations qui sont faites avec les jeunes en formation. Et ensuite, c'est vrai que les thématiques et le projet, le plaidoyer de l'école parlent à beaucoup de gens. Donc il y a des salariés dans l'association au nombre de 5 répartis sur 3, un peu plus de 3 équivalents temps plein. Et il y a aussi des bénévoles. Et c'est un peu la force du projet. C'est que, par exemple, en éco-construction, en menuiserie, il y a un retraité qui a 40 ans d'expérience et une super histoire de vie. Il s'appelle Pedro et il vient à peu près une journée par semaine de façon, encore une fois, bénévole, et il apporte énormément aux jeunes. Et de la même façon, on a une architecte qui vient, moi j'ai été pendant un temps salarié et maintenant je participe au projet, alors plus sur la partie montage, structuration, financement. Et donc voilà, le projet est tellement chouette qu'il fait venir pas mal d'énergie. Donc les salariés, c'est incontournable, parce que sans salariat, on peut pas avoir une action continue avec les jeunes. Donc c'est quelque chose qui s'est mis en place finalement assez récemment. À partir du moment où on a réussi à mettre en place des conventions avec la région et l'Europe, ça a permis de lever aussi un peu de fonds, de trésorerie, pour pouvoir initier le salariat. Et ce qui est génial, c'est qu'on a gardé aussi un certain nombre de bénévoles. Et du coup, on arrive à boucler un semblant de modèle économique. C'est un exercice du quotidien. On reste très très précaire, donc on reste très ouvert à toute possibilité de recevoir des financements et aussi des aides de bénévoles. On a aussi assez régulièrement des recherches en personnel salarié. Donc voilà, on reste très ouvert à ces possibilités.
Effectivement, c'est pas facile, hein, inévitablement, mais peut-être que aussi on peut faire appel à nos auditeurs. Vous pouvez peut-être percevoir des dons. C'est possible aussi, ça, des dons?
Oui, tout à fait, c'est possible. Alors, on peut, si on est intéressé par le projet, on peut adhérer à l'asso. Donc, c'est une adhésion qui est de l'ordre de 20 €. Et ensuite, oui, on peut faire un don. En fait, on peut adhérer et puis donner un petit peu plus. Ça, c'est tout à fait possible. Et les personnes qui souhaitent avant venir voir peuvent venir voir. On peut échanger avec elles. On va pas faire. Pour l'instant, on n'a pas de campagne de crowdfunding en cours, mais on a plus. Un appel continu à manifestation d'intérêt. Tous les gens qui sont intéressés, ils peuvent venir, on peut échanger. S'ils veulent donner, ils peuvent donner, mais on peut donner du temps aussi. C'est pas forcément des euros.
Alors, on va le rappeler pour nos auditeurs, hein. Vous êtes dans l'espace du tiers-lieu Le Lien, donc au bas de la côte de Gers, comme on dit tous ici, hein, sur la route de Pau. Voilà, et donc nos auditeurs peuvent venir vous voir, vous rencontrer, éventuellement acheter des choses. Pas encore, peut-être. Hein, je voyais qu'il y a une belle table de menuiserie devant l'atelier, mais...
En fait, on n'a pas du tout vocation à faire concurrence à des enseignes. Donc, on a rien à vendre. Après, on peut très bien mettre en place un partenariat via une convention avec une collectivité locale. Mais c'est pas exactement le projet de l'école que de vendre des biens de consommation.
Donc aujourd'hui, une famille est devant une situation avec un adulte qui est en recherche d'emploi, donc c'est Mission Locale qui vous envoie les candidats potentiels, c'est ça ?
Les candidats peuvent très bien nous joindre directement. En fait, souvent la mission locale est un acteur, on va dire assez incontournable dans l'accompagnement des jeunes. Mais on a aussi des jeunes qui sont venus hors mission locale, et on peut aussi travailler avec la mission locale pour qu'ils soient suivis en parallèle par la mission locale. C'est une condition qui n'est pas du tout obligatoire.
D'accord. Il faut quand même qu'ils aient une assise sociale minimum et qu'ils aient quand même une approche et une envie minimum, je suppose.
Oui, puis il y a aussi la question de l'âge. On est sur un public, en tout cas nous, dans le cadre de la convention un peu établie avec la région et dans le cadre aussi du public cible des écoles au niveau national, on est sur du 16-25 ans. Après, on a 80% du public qui a cet âge-là. Voilà, le reste peut être au-delà. Ça dépend aussi d'une situation. S'il y a une personne qui est en RQTH, en situation de reconnaissance de travailleur handicapé, ça peut aller jusqu'à 30 ans. Mais on est ouvert à toute proposition, à toute rencontre, en fait. Voilà, on est au tiers-lieu Le Lien.
En tout cas, merci infiniment à tous les deux. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous arrêter. Je pense que ça leur donnera un petit peu plus de force si vous venez leur dire un petit coucou. C'est une belle association. C'est un magnifique projet. Je voulais vraiment vous mettre un petit peu sous la lumière de notre radio. Et merci encore de m'avoir reçu. Et bon courage à vous deux.
Merci. Au revoir.
Voilà pour cette chronique verte de Benoît Guillard. Direction le site internet de la radio. Si vous avez manqué un petit bout, c'est sur radioprésence.com. On se retrouve dans quelques instants pour parler de combat spirituel.
Qui sentait bon le métropolitain, qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec une table et une chaise de jardin, avec deux arbres, un pommier et un sapin, au fond d'une cour à la Chaussée d'Antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce. Monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain, qui qui sentait bon le bassin parisien. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin, avec un homme qui faisait son jardin au fond d'une cour à la chaussée d'antin. Mais un jour, près du jardin, passa un homme qui, au revers de son veston, portait une fleur de béton. Dans le jardin, une voix chanta: de grâce, monsieur le promoteur, de grâce, préservez cette grâce, de grâce, de grâce, monsieur le promoteur, ne coupez pas mes fleurs. C'était un petit jardin qui sentait bon le bassin parisien. À la place du joli petit jardin, il y a l'entrée d'un souterrain où sont rangés comme des parpaings les automobiles du centre urbain. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'antin. C'était un petit jardin au fond d'une cour à la chaussée d'antin.
Et Jacques Dutronc sur Présence.
Radio Présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Et dans ce Présence Midi, comme tous les vendredis, nous retrouvons aujourd'hui Nicolas Dargegène pour la présentation d'un ouvrage.
Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui est un livre qui nous amène à partir en guerre. Ce livre, c'est Le combat spirituel par le père Joël Guibert, édité chez Arthège en 2020 et sorti en poche en 2024 chez Efata. En effet, c'est bien à une guerre que l'auteur, prédicateur renommé, nous entraîne dans cet ouvrage. Mais le sous-titre du livre nous permet d'en comprendre la raison, car cette guerre, ce combat, est la clé de la paix intérieure. Le père Guibert l'explique dans son introduction. La paix intérieure. Qui parmi nous n'aspire pas à ce bien supérieur? La sérénité profonde, qui ne court pas après? L'unité paisible de tout l'être, qui ne la poursuit pas? Mais voilà, pour obtenir un tel trésor, pour entrer dans la paix du cœur, il faut se préparer à la guerre. Tel est le paradoxe que beaucoup ne saisissent pas et qui les prive de la paix profonde et durable. Oui, il n'y a pas de sérénité personnelle sans une guerre impitoyable contre certaines inerties qui nous paralysent. Pas de paix intérieure sans combat spirituel. Il y a un lien très important entre le combat spirituel et la paix intérieure. L'un ne va pas sans l'autre. Le combat spirituel, ce n'est pas la finalité de la vie spirituelle. La finalité de la vie spirituelle, c'est l'union à Dieu, et donc le bonheur et la paix de Dieu. Le paradoxe est qu'on ne peut pas obtenir cette paix sans combat. Il faut entrer en guerre pour avoir la paix, il faut se fatiguer pour entrer dans le repos. Ce n'est pas le combat pour le combat, mais c'est un combat pour la paix. Pourquoi y a-t-il un combat? Eh bien, parce que nous naissons divisés, blessés par le péché originel. Nous naissons sortis de notre axe, nous avons quitté notre orientation profonde qui est de vivre à partir de Dieu, à partir de notre centre qui est Dieu. Le combat spirituel est de réunir toutes nos forces à partir du centre qui est Dieu, se recentrer vers Dieu, réorienter tout notre être vers notre Dieu Trinité. Le combat spirituel est d'abord l'affaire de Dieu, mais on n'est pas seul. Le combat spirituel a déjà été gagné par la mort et la résurrection du Christ. Ce combat, c'est se brancher sur la victoire du Christ qui a vaincu la mort. Le combat spirituel, ce n'est pas moi tout seul qui vais me battre. Le Christ nous a donné toutes les armes pour combattre, c'est-à-dire l'Église, les sept sacrements, la prière, la charité, les sacramentaux, la Sainte Vierge, les anges, les saints. Il y a une grande part de combat gagné quand on se met en état de se recevoir de la victoire du Christ et non pas dans une volonté de combattre seul. Dans cette lutte, dans ce combat, nous devons combattre deux maladies de l'âme, la philotie et la sédie. La philotie, le mot est très beau, cependant c'est une grave maladie, car il s'agit d'un amour démesuré de soi, allant jusqu'au mépris de Dieu, au fait qu'on ne sait plus ou qu'on ne veut plus entendre Dieu. C'est une maladie très répandue dans notre monde moderne. Et puis il y a la cédie, une désespérance profonde dont souffre l'homme. Voici deux maladies, deux tentations à éviter pour mener à bien le combat, pour retrouver la paix et la joie dans la confiance en l'amour de Dieu. Le père Guibert nous propose un remède concret pour guérir de ces maux. Savoir dire oui à sa vie, à son histoire. C'est une attitude où le rejet de la rancœur et le pardon tiennent une place essentielle. Le cœur du combat, c'est arriver à s'abandonner à Dieu. Et donc le combat doit être enchâssé dans l'abandon. La grâce de l'abandon à Dieu va nous permettre de vivre le combat. La miséricorde de Dieu va nous permettre de nous relever. Et puis, le combat est long, mais nous ne sommes jamais seuls. Il nous faut être à l'écoute de l'Esprit, se laisser guider par la sagesse de l'Église et s'abriter sous le manteau de Marie. Car Marie est là dans nos heures d'angoisse, elle est là dans nos nuits de la foi. Marie a reçu de Dieu la mission particulière de nous conduire à travers les ténèbres et de nous rafraîchir par sa présence. Le père Guibert cite saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui écrivait dans le traité de la vraie dévotion « Cette bonne mère et maîtresse rend si proche et si présente à ses fidèles serviteurs pour les éclairer dans leurs doutes, pour les affermir dans leurs craintes, pour les soutenir dans leurs combats et leurs difficultés, qu'en vérité ce chemin virginal pour trouver Jésus est un chemin de rose et de miel. » Marie est là, présente, elle intervient pour nous. Le père Guibert nous propose là un ouvrage clair, constructif et enthousiasmant qui nous permet d'avoir des forces pour ce combat, pour obtenir une véritable paix intérieure. En cette période anxiogène, la lecture de cet ouvrage s'avère précieuse pour surmonter les subtiles et perverses manœuvres de Satan, dont le projet est de détourner l'homme du bonheur pour lequel Dieu l'a créé. La recherche de ce bonheur ne doit cependant pas être confondue avec la quête d'un développement personnel qui risque d'évacuer la croix, de négliger les moyens offerts par la grâce, la prière et les sacrements, et de chercher l'équilibre dans un optimisme qui est une contrefaçon de l'espérance. Le père Guibert l'écrit d'ailleurs, « L'oubli de l'âme est la plus grande pauvreté de nos sociétés sophistiquées et la cause principale de leur grand mal-être. » Voilà un bon livre pour cheminer pendant le carême. D'ailleurs, le père Guibert prêchera à Lourdes une recollection à la paroisse du 28 au 30 mars sur le thème « Les clés de la paix intérieure », un bon moment de pause spirituelle à venir, ouvert à tous. Le combat spirituel, clé de la paix intérieure par le père Joël Guibert, édité chez Artege et chez Efata, pour la version en format de poche, est en vente à la librairie de la Grotte à Lourdes et dans toutes les librairies.
Eh bien, c'est noté. Merci Nicolas Dargegène. Dans quelques instants, le journal de la mi-journée. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 13h. C'est le Présence Midi. Il est 12h passé de 27 minutes. Très très bon appétit si vous êtes à table.
Je vous étreins d'ici, femme de ce pays, et je vous vois passer toutes de bleu drapées. Il est 20h chez moi, vos visages vous voir. Il est 20h chez moi, c'est le monde qui va. Il pleut sur Jalalabad.
Ti mando un abbraccio a mamma guada, mi stringi al cuore, vi sento chiamar. Ti mando turchino, vi vengo passar. Ottore isera, un mondo che va. Ottore isera, mi sento chiamar. Ottore isera, un mondo che va. Ti mando un coraggio a chi posso dire. A montagna nera levo da qui, ti canto una vera e un altro pampa, un cuore che creda, un sogno che va, dottore Isera, ti sento chiamare, dottore Isera, tutto il mondo che va.
Le monde est mal. Je pense aux yeux de la jeune Afghane, à son fils en larmes, sa mère en larmes. Que le soleil brille sur la femme nomade, d'Islamabad jusqu'à Jalalabad.
Forse un amore, un'alma qui va, un fiume qui corre, un dio che sa. Mi porgo una mano, sorelle da ma, è nato un urano, domani sarà. Ottore Isera, vi sento chiamare. Ottore Isera, vi vengo passare. Ottore Isera, un mondo che va. Yeah.
Tore Isera, mi vengo passa. Tore Isera, non ho chi va. E donna libertà, già.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non.
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Radio Présence à Argelès-Gazost, 91.9.
12h passées de 31 minutes à la pendule de Présence. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en plein cœur du Présence midi. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Voici le journal.
Bonjour à toutes et à tous. À l'Union, près de Toulouse, le maire Marc Perret s'insurge contre un discours prononcé par Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées. Cette semaine, à Paris, à l'occasion du 107e congrès des maires, l'homme a averti d'un possible conflit avec la Russie d'ici 3 à 4 ans, selon lui, appelant les maires à préparer leur population. Une phrase choc est notamment ressortie, « accepter de perdre ses enfants ». Ce sont les mots abjects prononcés par Fabien Mandon. Marc Perret, de son côté, dit ne pas vouloir de cette guerre et dénonce un discours guerrier. À Toulouse, François Briançon, candidat PS au municipal 2026, présente cette semaine son projet santé. Il alerte sur le renoncement aux soins et énonce un objectif de taille, créer un troisième grand hôpital dans le nord de la ville après Purpan et Rangueil. Il promet notamment un audit des centres municipaux de santé et des médibus pour rapprocher les soins des habitants. Dans le Lot, une trentaine d'assistants familiaux ont manifesté hier à Cahors à l'occasion de la journée des droits de l'enfant. En grève, ils réclament une hausse de l'allocation de vêture, un week-end de repos mensuel, plus de soutien en cas de plainte et la fin du plafonnement des indemnités. Le département assure écouter leurs demandes et attendre des mesures nationales. À Toulouse, les derniers échafaudages sont tombés hier devant le Capitole. La ville achève 6 ans de restauration. Façades avant, latérales et arrière ont notamment été rénovées. Le chantier, lancé en 2020, a coûté près de 4 millions d'euros avec le soutien de la DRAC. Le monument le plus célèbre de la ville rose retrouve enfin tout son éclat. Dans le Tarn, le Salon des Antiquaires revient au Parc des Expos d'Albi à partir d'aujourd'hui pour sa 50e édition. Caroline Margeridon, marraine de l'événement et star de l'émission Affaires conclues, sera présente samedi pour rencontrer le public. Chaque jour, un visiteur pourra également tenter de gagner un authentique louis d'or en déposant un coupon à l'accueil. Ouverture de 10h à 19h, l'entrée, elle, est à 5 euros. À Castelsarrasin, enfin, la Maison d'Espagne expose jusqu'au 29 décembre les récentes œuvres de Raymond Dirlès. Né à Montauban et formé aux Beaux-Arts de Toulouse, l'artiste abstrait présente une sélection de toiles et papiers créés dans son atelier du Tarn-et-Garonne. L'entrée est gratuite du lundi au vendredi.
Merci Mathis Santenac de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse de nous avoir présenté ces informations durant ces 3 semaines. Nous remercions cet institut. Il est temps pour nous de retrouver la chronique solidaire de Anne Deslois. Aujourd'hui, elle nous propose de nous amener sur les hauteurs de Lourdes.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, notre chronique solidairement vôtre, un beau nom pour une chronique sur la solidarité, eh bien, va nous permettre de mieux connaître ce qu'est la cité Saint-Pierre à Lourdes. Alors, pour cela, notre invité, on a la chance d'avoir Jérôme Cangrand, qui est le directeur adjoint de la cité Saint-Pierre. Bonjour Jérôme.
Bonjour Anne, bonjour aux auditeurs de Radio Présence.
Voilà, alors certainement que beaucoup de nos éditeurs connaissent déjà la cité Saint-Pierre, peut-être pas dans le détail, mais c'est vrai que c'est un lieu quand même très particulier, puis qui est, j'ai envie de dire, mondialement connu. On dit souvent que Lourdes est mondialement connue, mais la cité Saint-Pierre aussi.
Aussi, oui, dans sa propre mesure, oui.
Ah, vous accueillez en fait des personnes qui viennent du monde entier.
Du monde entier, depuis 70 ans, oui. On accueille chaque année plus de 15 000 pèlerins qui viennent séjourner chez nous, qui viennent dormir chez nous dans nos 220 chambres. On a aussi ce qu'on appelle les groupes extérieurs, donc c'est-à-dire des pèlerinages qui viennent à Lourdes et qui viennent juste prendre un temps de célébration, un temps de visite à la cité. Ça, c'est 40 000 pèlerins par an. Et puis, on a aussi une communauté, on y reviendra peut-être dans le détail, de bénévoles, 1200, qui viennent chaque année au service à la cité Saint-Pierre.
Oui, ça fait du monde tout ça. Alors, dites-nous, Jérôme, déjà, dans un premier temps, quelle est l'origine de la cité Saint-Pierre ?
Alors, l'origine de la cité Saint-Pierre, il faut partir en 1955. Donc,
Il y a juste 70 ans.
Il y a juste 70 ans. Donc voilà, ça sera notre anniversaire le 1er août. Donc, il y a 70 ans, en fait, le Secours catholique et notre fondateur, tout particulièrement l'abbé Jean Rodin, aimait beaucoup Lourdes. Il venait régulièrement à Lourdes, avait une grande dévotion mariale, et un jour, il se trouve à la gare, et puis il voit des personnes très fatiguées, une famille très fatiguée qui... voilà. Il leur dit, mais est-ce que vous avez pris le temps de visiter un petit peu les extérieurs de Lourdes, prendre votre pèlerinage ? Il dit, non, pas du tout. En fait, on avait deux choix possibles. Soit partir juste ma femme et moi deux jours à Lourdes et prendre une nuitée d'hôtel, soit descendre avec toute la famille, descendre avec le train couchette, dormir sur un banc au sanctuaire, puisqu'à l'époque le sanctuaire était ouvert à toute heure du jour et de la nuit, et rentrer. Et donc Jean Rodin, il est très touché par ce témoignage, il se dit on peut pas laisser des personnes voilà qui ont pas forcément les moyens de se payer une nuit d'hôtel. Voilà, rater un pèlerinage à Lourdes et rater la belle création qu'on peut voir autour, hein, avec Cotteret et les choses comme ça. Donc, il est touché par ça et il se met en quête de trouver un lieu pour fonder un lieu d'hébergement pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se payer l'hôtel à Lourdes.
Voilà donc comment est parti ce beau projet donc, qui s'est appelé « Pourquoi la cité Saint-Pierre ?»
Alors, cité Saint-Pierre, tout simplement parce qu'on a été inauguré un jour de la Saint-Pierre-aux-Liens et ça avait aussi beaucoup de signification pour l'abbé Rodin, c'était libérer des chaînes, en fait, libérer de la pauvreté les gens qui pouvaient venir ici, donc ça avait toute cette signification-là.
Alors, il faut peut-être préciser que la cité Saint-Pierre, quelque part, dépend directement du Secours catholique en France.
Absolument, on est un établissement du Secours catholique, on dépend du siège national à Paris, et on est vraiment la maison de famille, puisque le Secours catholique a un grand lien avec Lourdes. Il faut rappeler que le Secours catholique a été fondé en septembre 1946 à Lourdes, sur l'esplanade du Rosaire. C'est sa maison de famille, on a beaucoup de sessions nationales, l'Assemblée Générale, de la maison générale qui se passe ici à Lourdes. C'est vraiment la maison de famille du Secours catholique.
Alors la cité Saint-Pierre, depuis donc 70 ans, se trouve sur les hauteurs de Lourdes, un peu à l'extérieur. Donc c'est vrai, dans un beau domaine, plein de verdure. Comment a été trouvé ce lieu ?
Alors, l'abbé Jean Rodin, dès cette intuition qu'il a à la gare, se met à la recherche d'un lieu. Donc, plusieurs lieux sont évoqués, notamment avec, à l'époque, l'évêque de Tarbes-Lourdes, avec qui il était très en lien. On pensait notamment au terrain du village des jeunes, d'autres terrains un peu plus éloignés. Et en fait, il se lie d'amitié avec la propriétaire du domaine du Béout, donc là où nous sommes situés actuellement, qui était opposée à l'achat par le Secours catholique de son terrain. Et puis, un lien d'amitié se crée avec l'abbé Rodin. Et donc, l'abbé Rodin achète ce domaine de 12 hectares, qui était composé à l'époque d'un petit château, qu'on dit être un relais de chasse du roi Henri IV sans grande certitude, et puis 12 hectares de terrain avec des fermes, etc. Et donc il se met en recherche d'aide pour construire les premiers bâtiments et pouvoir accueillir les pèlerins dès 1956. Et donc c'est vraiment la charité internationale qui va se créer au sein de la cité Saint-Pierre, puisque les premiers pavillons vont être financés par l'ordre de Malte, par les fonds d'aide du Vatican, par le pape Pie XII, également par Fiat Italie, Donc c'est vraiment la générosité internationale et le réseau Caritas Internationalis qui reprend un peu de vie dans les années 50 qui vont permettre cet élan de générosité de construire la Cité Saint-Pierre.
Alors quels ont été les liens entre la Cité Saint-Pierre et le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes dès le début ? Parce que je pense qu'ils existent encore ces liens.
Alors, dès le début, il a été très étroit. Monseigneur Rodin déjà était très ami avec l'évêque de Tarbes-Lourdes à l'époque. Voilà, c'est aussi un souhait de l'évêque de Tarbes-Lourdes de l'époque de pouvoir créer un lieu d'accueil de personnes voilà qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un hôtel, un vœu qui avait été exprimé a priori des peu de temps après les apparitions par Sainte Bernadette elle-même de pouvoir accueillir tout le monde ici à Lourdes. Donc c'est vraiment cette vision conjointe de l'évêque de Tarbes-Lourdes et de Monseigneur Rodin qui vont permettre de créer ce... Donc les liens sont étroits depuis très longtemps. C'est des liens qu'on entretient toujours, voilà, que ce soit avec les chapelains, le recteur, les équipes du sanctuaire. On travaille vraiment main dans la main et, pour bien accueillir les pèlerins à Lourdes.
Alors, en vous entendant, Jérôme, on entend bien justement que la Cité Saint-Pierre, c'est pas un hôtel, on va dire, de plus à Lourdes ou une maison d'accueil ordinaire. Qu'est-ce qui se vit vraiment entre vous qui accueillez, donc on va dire les accueillants et les accueillis ? Quel lien de fraternité vous essayez de tisser ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Alors oui, tout à fait. Déjà, la Cité Saint-Pierre, de par la vision de notre fondateur, c'est un lieu de paix, de silence et de paix. C'était des mots qui revenaient très régulièrement. Alors, pas de silence monastique, de silence où on parle, où on peut se retrouver, où on peut un peu se reconnecter. Voilà. Et donc, c'est vrai que il se vit plein de choses avec les pèlerins qu'on accueille, quoi. Des fois, il faut savoir que, par exemple, que ce soit des bénévoles ou que ce soit des salariés, on a souvent des témoignages. Des fois, c'est des gens qui ont connu la rue, qui savent, des fois, pas faire forcément un lit, quoi. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, avoir une chambre avec un lit, des fois, c'est, mais qu'est-ce que vous m'avez réservé? C'est super. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses. Et puis, on se reconnecte très vite au message de Lourdes. Combien de fois on a eu ce témoignage-là? Ici, on me considère comme une personne. On me croise dans un couloir, on me dit bonjour.
C'était ce que Marie avait dit à Bernadette, enfin, ou Bernadette qui disait, elle me regardait comme une personne.
Voilà, je suis la plus pauvre de Lourdes et elle me regardait comme une personne. Cette considération, voilà, dès qu'on va croiser quelqu'un à la Cité Saint-Pierre, on va saluer, et être considéré, être accueilli, ne serait-ce que par ça. Souvent, c'est des témoignages qu'on a très régulièrement. Et puis aussi avec nos bénévoles en pavillon qui aident à l'hébergement. Voilà, c'est souvent des beaux témoignages, des grandes discussions qui peuvent arriver, un café offert, un thé offert, voilà, et des grandes discussions qui arrivent. Et c'est cet échange naturel qui se crée, voilà, à la Cité Saint-Pierre.
À travers ce que vous dites, Jérôme, j'entends que c'est comme une grande réunion de famille. Il y a tout un esprit, justement, de fraternité, un esprit familial. Et on a envie, à mon avis, d'y revenir, quoi. Une fois qu'on a un peu goûté cette expérience-là, j'imagine que ceux qui ont été accueillis deviennent peut-être accueillants à leur tour.
C'est ça. On a beaucoup de gens qui sont venus à la Cité Saint-Pierre, qui ont pu se reconstruire aussi grâce à la Cité Saint-Pierre aux quelques jours qu'ils ont vécu. Ils sont revenus en tant que bénévoles. Derrière, ils ont pu retrouver un travail, etc. Ça a été toute une rencontre avec le lieu de Lourdes et beaucoup d'accueillis sont devenus accueillants par la suite. Voilà, c'est vraiment l'esprit d'une grande famille.
Alors, il y a beaucoup de bénévoles, mais il y a quand même quelques salariés, il y a un aumônier, enfin, un petit peu rapidement, peut-être avant qu'on termine cette chronique, quelques mots sur la structure qui accueille.
Alors, la Cité Saint-Pierre, on est 23 permanents salariés, donc à peu près un responsable par service. C'est un grand domaine de 38 hectares, donc 23, c'est vraiment une personne pour la lingerie, une personne pour l'accueil, une personne voilà, pour les réservations, ainsi de suite. Pour la restauration, bon, c'est une équipe un peu plus dense, mais c'est aussi 1200 bénévoles. On a à peu près 60 bénévoles qui viennent chaque semaine au service. D'ailleurs, je lance un appel si jamais il y a des personnes, des auditeurs de Radio Présence qui veulent s'essayer au bénévolat. Ils peuvent venir à partir de une semaine jusqu'à trois semaines à la Cité Saint-Pierre. Et voilà, on découvre vraiment cet esprit de famille dont on parle et qui est si magique.
C'est une belle équipe et puis comme vous avez fait, Jérôme, c'est une bonne idée d'avoir lancé un appel parce qu'il y a peut-être certains de nos auditeurs qui ont envie de vous rejoindre. Merci beaucoup pour nous avoir fait découvrir la Cité Saint-Pierre. À une prochaine fois.
Merci Anne, merci aux auditeurs de Radio Présence.
Allez, dans quelques instants, nous allons parler de Philippe Labro qui a écrit sur notre belle Occitanie en compagnie de Catherine Albrès. Je vous laisse en compagnie de Véronique Sanson.
Je sais que l'amour est là, infiniment troublé. Présence à Auch, 89.6.
D'Occitanie, un doux nom qui a inspiré nombre d'écrivains célèbres depuis des siècles. Séduit par ses paysages, son art de vivre, son histoire, ses habitants, écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Philippe Labro. Philippe Labro, écrivain, journaliste, parolier, réalisateur, homme de radio et de télévision, est né à Montauban, où il a passé une partie de son enfance. Il évoque cette période dans son roman autobiographique « Le petit garçon ». En novembre 1942, l'arrivée à Montauban des troupes allemandes après l'invasion de la zone libre fut pour le jeune Philippe un événement considérable. Ce qui l'a surtout frappé, ce fut l'apparition soudaine d'une nouvelle couleur qui se répandait sur toute la ville, le vert de gris. Un grondement prolongé, comme les roulements des baguettes sur une batterie de grosses caisses tendues de toile, précéda leur apparition. Le bourdonnement venait d'en bas, des rives du fleuve, de la ceinture de la ville. On était en novembre, il faisait frais, pas froid, et les vents déferlant des causses avaient achevé de disperser sur la boulebène des allées Malacan les feuilles mortes des platanes. Les deux marchandes de glace, agitées par un pressentiment « allait-il pleuvoir ?», avaient rangé l'étalage de leur carriole et s'étaient abrités à la hâte sous le toit en tôle ondulée du bazar Montaut. Les deux marchandes se haïssaient. Séparées d'une vingtaine de mètres chacune, ayant marqué son territoire d'un côté des allées, elles se répandaient en calomnies réciproques. Mais le bruit anormal avait réuni les deux mégères dans la même inquiétude. Et ce furent elles qui, debout dans leur tablier, leurs gros corps coincés entre les carrioles bariolées et les vitrines du bazar, virent les premiers casques et les premiers uniformes. Et Madame Donzelli, plus audacieuse que sa concurrente, cria en direction de la place des Acacias « Les voilà !» Son appel s'engouffra le long des allées étroites pour gagner la place et le café de la REP. Certains clients sortirent et s'immobilisèrent sur le trottoir, malgré le mauvais temps, mais d'autres restèrent en retrait à l'intérieur. Tous, cependant, s'étaient levés sans se concerter et un silence brutal avait envahi la grande salle enfumée, habituellement parcourue de cris, de rires et du choc des verres et des soucoupes. Ils comprirent, juste après les deux marchandes, que ce que l'on avait confondu avec la résonance de multiples tambours n'était que le chant des moteurs de véhicules peints en vert de gris, roulant souplement dans une formation impeccable, conduit ou encadré par des soldats dont les vareuses, chemises, casquettes et pantalons arboraient la même couleur. Seules les bottes et les armes étaient sombres, noires et luisantes. La nouvelle couleur était une couleur inconnue. Dans cette cité, tour à tour, selon les quartiers ou les saisons, grise, blanche, calcaire, crayeuse, rouge, argileuse, rose, pastellisée, et parmi cette humanité bistre, noiraude, bavarde et faraude, courte sur pattes et vivace, qui avait triplé de volume en moins de 2 ans et avait incorporé des parigots plus pâles ou des réfugiés aux accents et aux teints plus contrastés, la nouvelle couleur frappa les regards et les esprits. Il y avait dans cette nouvelle couleur quelque chose qui ne s'harmonisait pas avec le caractère de la ville. Et ce n'était pas tellement la nouveauté qui dérangeait les sens et répandait le malaise, mais plutôt sa laideur, son artifice. Et l'on voyait bien que la nouvelle couleur était arrivée en dominatrice, qu'elle ne demandait son avis à personne, et qu'il faudrait la subir, ou sinon lui résister. La nouvelle couleur accompagnait de nouveaux faciès et recouvrait des anatomies nouvelles. Des taches de son sur les visages, des yeux clairs, des peaux autrement pigmentées, plus laiteuses, des nez et des oreilles fabriquées dans d'autres moules, moins ronds, plus aigus. Les bras et les jambes ne se mouvaient pas de la même façon. Les hommes ne marchaient pas au même rythme que les gens du pays. Et les officiers supérieurs, qui se tenaient à l'avant de la colonne, avaient un autre air. Sérieux. Satisfaction. Certitude. Et bien que l'on fût habitué dans la ville et la région à reconnaître l'allure avantageuse d'un propriétaire terrien, les manières conquérantes du patron de la biscuiterie locale ou la démarche arrogante du marchand de bestiaux fortuné, il y avait chez ces soldats et leurs chefs les signes d'une supériorité différente, préconçue. Une morgue sans commune mesure avec celle que confère la naissance ou l'argent. À travers le regard et les mots de Philippe Labro, inspiré par nos montagnes, nos paysages, notre belle Occitanie, nous avons pu apprécier son talent et son émerveillement devant ce beau patrimoine. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée, intitulée « Mots et merveilles d'Occitanie », inspirant tous mes récits.
Thank you. dans le Grand Toulouse, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Nouvel enlèvement de jeunes élèves ce vendredi au Nigeria. Une école catholique du centre du pays a été